Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour, nous sommes le vendredi 12 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Le Premier ministre se réunira aujourd'hui avec les directeurs de l'usine Audi de Bruxelles. Ils devront discuter de l'avenir du site de Forêt, mais la réunion se fera sans les syndicats. L'Union des classes moyennes met à partir d'aujourd'hui plusieurs outils à disposition des indépendants pour éviter le burn-out. On vous explique lesquels. Restez bien attentifs à la fin de cette édition de votre brief. Nous lançons un questionnaire pour mieux vous connaître et vous informer de la meilleure des manières. Et puis aussi, un beau cadeau à la clé. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour le brief ce matin.
Le brief, cette info, dès 7h.
Le Premier ministre Alexander De Croo réunira pour la première fois aujourd'hui sa task force sur l'avenir d'Audi Bruxelles. C'est une mission de sauvetage de l'usine dont la cadence de production a été réduite d'un quart en raison de la baisse de la demande pour la Q8 électrique. 371 intérimaires ont déjà été remerciés et c'est maintenant les 3000 travailleurs fixes qui s'inquiètent pour leur avenir. Les syndicats n'ont cependant pas été conviés à cette réunion de crise. Pour Hilal Sor, le secrétaire général des métallos FGTB, c'est un peu l'incompréhension.
C'est les travailleurs qui font vivre l'usine. Que ça aille dans un sens ou dans un autre, il faudra compter sur les travailleurs et sur les organisations syndicales pour assurer l'avenir du site. Hein. Donc les voitures ne vont pas s'assembler uniquement avec la direction. C'est les 3000 travailleurs et les intérimaires qui font l'assemblage des véhicules et qui font que ce site est performant. Et donc, qu'il ne soit pas représenté à la table, c'est quand même quelque chose d'assez aberrant. Et je trouve même quelque chose d'assez historique. Je ne me souviens pas, en tant que responsable syndical, que dans de tels dossiers, on écarte comme ça les organisations syndicales.
Alors, selon le syndicaliste, à l'heure où tout le monde parle de réindustrialisation, la Belgique et l'Europe devraient adopter une meilleure stratégie en matière de mobilité et d'électrification, sous peine de ne pas arriver à protéger notre industrie. Pour l'heure, le travail a repris à Forêt cette semaine. Hilal Sor décrit l'ambiance qui y règne depuis le départ des intérimaires.
L'ambiance, elle est évidemment pas simple. Hein. Donc, on a perdu 371 collègues qui étaient sur les chaînes avec les autres travailleurs. Donc, évidemment, les rapports qu'on a, c'est que l'ambiance n'est pas simple. Il y a aussi un problème de confiance vis-à-vis de la direction locale sur les accords qui avaient été passés pour maintenir ces intérimaires sur place. Et puis, toute une problématique de mutation maintenant de travailleurs à l'intérieur de l'usine qui ne sont pas simples non plus. Donc, je ne dis pas que l'ambiance ça rattache notre détermination pour le maintien du site, mais effectivement, cette décision ne facilite pas les choses.
En 2022, l'UCM, l'Union des classes moyennes, avait mené l'enquête. Ce n'était pas fameux, 56% des indépendants affirmaient travailler plus de 50 heures par semaine et près d'un sur deux avouaient prendre des médicaments pour trouver le sommeil ou résister au stress. C'est un constat dans lequel vous vous reconnaissez peut-être si vous êtes indépendant. Pour tenter de soulager les indépendants, l'UCM met à disposition un certain nombre d'outils et de services d'accompagnement. Il y a notamment des webinaires gratuits pour informer et aider les personnes concernées ou encore une application sur smartphone avec des exercices pour retrouver une certaine sérénité. Ces services seront regroupés dans un nouveau volet de l'INASTI, la Sécurité sociale des indépendants, et un budget de 4 millions d'euros sera distribué aux différentes caisses d'assurance sociale qui se retrouvent donc investies d'une nouvelle mission légale, prévenir et apporter des solutions au burn-out. Mais bon, en la matière, il n'y a pas vraiment de recette magique à part parvenir à lâcher prise. Sans surprise, les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne ont maintenu les taux directeurs inchangés à 4% pour la cinquième fois d'affilée. La Banque Centrale Européenne estime ne pas avoir encore assez de données économiques pour être sûr que l'inflation continuera bien à diminuer vers l'objectif de 2%, et ça de manière durable. Mais l'inflation plus importante que prévue aux États-Unis a jeté le doute hier sur une possible baisse des taux attendue pour le printemps. Toutefois, la présidente de l'institution monétaire, Christine Lagarde, ne veut pas comparer des pommes et des poires. L'inflation de la zone euro n'est pas celle des États-Unis.
We are operating in the euro area.
Nous opérons dans la zone euro avec l'économie de la zone euro au profit des Européens. Notre objectif est la stabilité des prix et nous devons prendre nos décisions de politique monétaire sur base des données produites par la zone euro, sur base de l'environnement économique mondial, qui comprend évidemment les États-Unis, mais aussi la Chine, qui a son importance, le Japon, qui a son importance, et de nombreuses économies de marché émergentes qui ont aussi leur importance. Mais nous nous concentrons principalement sur le territoire pour lequel nous avons la responsabilité de la politique monétaire.
Par ailleurs, la saison des résultats s'ouvre officiellement à Wall Street aujourd'hui, avec ceux des grandes banques. Les résultats du premier trimestre seront-ils suffisamment solides pour justifier la poursuite du rallye boursier? Ça, c'est la grande question. En tout cas, hier, les places boursières européennes ont terminé dans le rouge, dans la foulée de la pause de la BCE. À New York, le S&P 500, l'indice phare de la bourse de New York, est en bonne voie. Il a progressé de plus de 10% depuis janvier. C'est son meilleur début d'année en 5 ans. Et cette nuit, le S&P 500 gagnait encore 0,74%. Tokyo ouvre en hausse d'un demi-pourcent ce matin, mais le yen reste particulièrement faible face au dollar. Lucie Louvain met 100 millions d'euros sur la table pour financer la rénovation énergétique de son parc immobilier. Le but, c'est de tendre vers la neutralité carbone d'ici 2045 sur le campus de Louvain-la-Neuve. Maxime Delrue, bonjour.
Bonjour.
C'est un chantier titanesque. Lucie Louvain, c'est près de 400 000 mètres carrés de locaux académiques, de recherche ou encore de côtes. Une enveloppe de 100 millions d'euros, ça semble assez insuffisant, non?
Oui, tout à fait. Donc Lucie Louvain trouve dans ses réserves et dans différentes lignes, via des petites économies par-ci et par-là, ces 100 millions d'euros pour rénover une partie de ses bâtiments académiques. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant parce qu'il faudrait au bas mot 300 millions d'euros pour rénover l'ensemble de ces bâtiments académiques. Donc on est effectivement très loin du compte.
Effectivement, d'autant que ces rénovations de bâtiments, elles ne suffiront pas à atteindre la neutralité carbone en 2045, ce qui est pourtant l'objectif de l'université.
Oui, tout à fait. Donc la rénovation de ces bâtiments, c'est une première étape évidemment importante, mais ça ne suffira pas pour tendre au maximum vers cette neutralité carbone pour 2045. Lucie Louvain compte mettre en place une centrale de biométhanisation sur les hauteurs de Louvain-la-Neuve pour que l'énergie qui est toujours nécessaire pour les logements et les autres locaux soit autant décarbonée que possible. Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est que l'université compte sur les vertus de la sensibilisation et puis de la sobriété énergétique.
Vous l'avez compris, un défi de taille donc pour Lucie Louvain. Alexia Hauten, son administratrice générale, nous a d'ailleurs confié qu'avec le nombre d'étudiants qui augmente chaque année et le manque de personnel technique, le chantier s'annonce plutôt ardu. Les déclarations d'impôts sur papier resteront finalement possibles jusqu'en 2028. En 2021, le SP Finance était pourtant fixé le 1er janvier 2025 comme date butoir pour passer au 100% digital entre les entreprises, les particuliers et le fisc. Mais voilà, ils n'auront pas le temps de créer toute la capacité numérique nécessaire d'ici là. Et puis, les entreprises et les particuliers ne sont pas tout à fait prêts, eux non plus. En 2022, 8% des Belges ont encore rempli leur déclaration sur papier, par exemple. La communication entièrement numérique avec l'administration fiscale sera introduite progressivement et elle devrait entrer en vigueur plus tôt pour les entreprises que pour les particuliers. L'aérospatial Wallon était en Italie hier pour faire valoir ses meilleurs atouts. Une quinzaine de sociétés ont pris leur quartier à Turin pour l'événement itinérant Casa Wallonia. L'idée, c'est de présenter la Wallonie à l'étranger sous toutes ses facettes, de l'économie à la culture, en passant par le tourisme, les universités ou la gastronomie. Cette année, les festivités ont eu lieu à Turin. Il faut dire que la région du Piémont, c'est le symbole de l'industrie italienne. On y trouve le siège d'activité de nombreux partenaires commerciaux potentiels qui vont des multinationales aux petites start-up. Pour l'édition 2024, c'est donc l'aéronautique et le spatial wallon qui sont mis sur le devant de la scène, comme l'explique la directrice de la WEX, Pascale Delcominet.
Alors à chaque édition, on essaye de vraiment focaliser sur un secteur. En Espagne, c'était les industries culturelles et créatives, par exemple, le gaming notamment, l'année dernière. Ici, on a voulu cibler une autre ville que celle que nous avions ciblée il y a 2 ans en Italie, qui était Milan. On a voulu cibler Turin. Et c'est vrai que Turin et la région du Piémont d'une manière générale, veut développer tout le secteur aéronautique, aérospatial, dans lequel, on le sait, nous avons vraiment des leaders mondiaux dans lesquels nous sommes assez forts.
Alors parmi les sociétés participantes, il y a Nanopiro, une spin-off de l'École Royale Militaire qui développe des produits énergétiques essentiellement destinés au secteur de la défense et du spatial. Pour le fondateur de Nanopiro, Laurent Demaret, une mission comme Casa Valonia, c'est aussi une bonne opportunité pour élargir son réseau.
Donc mon partenaire et moi-même avons plutôt un background militaire et notre réseau est surtout axé sur le secteur de la défense. Et en fait, comme on vise en second temps le secteur du spatial, Casa Valonia est une opportunité pour nous pour pouvoir développer nos activités et trouver des partenaires dans le spatial.
Vous êtes un auditeur fidèle du Brief ou plus occasionnel. Vous nous écoutez à partir de l'application de l'Écho ou à partir d'une plateforme de streaming. Vous nous écoutez en voiture, en bus, en courant. Eh bien, racontez-nous ça. Vous nous écoutez, mais nous aussi, nous avons envie de vous entendre. Alors nous lançons une grande enquête auprès de vous, nos auditeurs, pour mieux vous connaître, pour mieux répondre à vos attentes, pour affiner les sujets que nous vous proposons chaque jour et la manière de les traiter. Une 20aine de questions, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais votre avis sera très précieux pour nous. Et puis, accessoirement, il y aura un casque d'écoute sans fil à gagner par tirage au sort parmi tous les répondants. Vous trouverez le lien d'accès à cette enquête dans les notes de cet épisode. Merci déjà de votre participation. En début de semaine, je vous parlais de la faillite de la chaîne de mode Esprit. Alors comme promis, nous consacrons un brief spécial au blues des enseignes de moyenne gamme. Avant Esprit, il y a eu Cassis, Paprika ou encore la marque Camailleux. Andy Noirès et Luc Vendry se recevront Pierre Amblen, le fondateur de la marque G&Joy, et Alain De Crop, professeur de marketing à l'université de Namur. Un brief préparé par Guillaume Cordeau. Merci à Andine, encore elle, et à Brian Momard qui ont préparé cet épisode-ci. On se retrouve lundi. Fabrice Brion, le CEO de iCare, sera mon invité. Ciao.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.